Longtemps, ma devise a été « aucun secret, aucun mystère, aucun sens ». J'étais persuadé que le monde terrestre et physique constituait l'unique réalité. Pourtant, le monde des rêves, que je rejetais le jour, me soufflait souvent à l'oreille la nuit « et si la vie pouvait se révéler merveilleuse en considérant tout autrement ?» Et puis c'est arrivé, comme ça. Un matin, la logique n'avait pas disparu, mais j'avais compris qu'il n'était pas nécessaire d'opposer systématiquement la science à l'art, aux symboles et aux traditions. Comme l'écrivait Emily Dickinson durant sa quête d'immortalité, la foi, c'est le doute. Et d'ajouter, qui n'a pas trouvé le paradis ici-bas, le manquera là-haut. Car les anges louent la maison d'à côté, peu importe où nous déménageons. L'alchimie, la mère spirituelle de la chimie moderne, si souvent discréditée, et pourtant, qui n'a pas rêvé de découvrir la pierre philosophale pour transformer le vil en or, rêvé de découvrir la médecine universelle pour soigner ses maux, rêvé d'atteindre l'immortalité pour lever un coin du voile du mystère de la vie, de la mort, de l'univers et de la conscience. Rêver, oui, rêver car les liens entre le monde des rêves et l'alchimie sont si évidents qu'il est cohérent d'admettre qu'un même processus est à l'œuvre derrière ces mondes symboliques. Il est d'ailleurs troublant de remarquer que c'est toujours le même processus qui est décrit, traité après traité, siècle après siècle. Cela débute par une rencontre, en songe, entre l'adepte et son maître, un messager ou un ange. Notre époque reste sceptique, mais elle est curieuse. Aujourd'hui, parmi les rires moqueurs, s'élèvent des chercheuses et des chercheurs sincères. Il est certain que l'alchimie qui persiste depuis si longtemps avec tant de force doit être étudiée. Ce n'est pas un hasard si la série littéraire Harry Potter, qui place l'alchimie au centre de sa première intrigue, a eu tant de succès. L'alchimie, aussi vieille que l'histoire de l'humanité, attire celles et ceux qui s'approchent de sa circonférence. Mais qu'est-ce que l'alchimie finalement? Serait-elle le pont que je recherche depuis le début de ce podcast? Le pont entre art, science, philosophie et spiritualité? Et qu'est-ce que l'alchimie peut nous apporter aujourd'hui? Pour répondre à ces questions, je me suis rendu, dictaphone à la main, chez le professeur Stéphane Fay, traducteur de nombreux ouvrages d'alchimie.
Stéphane Fay, bonjour. Vous êtes né à Falmagne, près de Dinan, en 1949. Après des études gréco-latines et musicales, alors que vous vous destinez à être musicien, cela vous entraînera dans une carrière de pianiste, chef d'orchestre, compositeur et professeur d'écriture musicale. Vous fréquentez une communauté non violente près de Namur, inspirée par Lanza del Vasto, un disciple de Gandhi. C'est dans ce cadre que vous rencontrez le baron Emmanuel d'Hoogvorst, qui deviendra votre ami. Vous avez 21 ans, il en a 57. Il est venu présenter le livre d'un ami de Lanza del Vasto, Louis Catiot, livre qui s'intitule « Le message retrouvé ». Ses premiers mots vous marquent. Actuellement, il n'y a presque plus personne qui croit que Dieu lui parle. Il faut dire que l'auteur du message retrouvé, Louis Catiot, a compilé de 1938 jusqu'à sa mort des versets qu'il reçoit d'un ailleurs en les organisant sous deux colonnes, une pour le sens terrestre, l'autre pour le sens céleste. À l'image de ce double sens, est-ce que la double rencontre que vous faites d'une part avec Emmanuel d'Hoogvorst et d'autre part avec le message retrouvé est à l'origine de votre démarche?
Oui, certainement. J'ai toujours été croyant, je le reconnais, et j'ai même été un vrai catholique pratiquant, sacristain, sonneur de cloche, enfant de chœur, organiste, bon. Mais évidemment, je me suis toujours posé des questions. Je me disais toujours qu'il y avait un universalisme quelque part. Je crois à une expérience primordiale. Et je me suis aussi rendu compte que les religions prêchaient très souvent des choses en n'en connaissant pas l'ABC. Et je me sentais moi-même totalement ignorant. Il faut savoir aussi que c'était l'époque du mouvement mai 68. Hein. Je ne sais pas si à l'époque les longs cheveux que j'avais, la longue barbe avaient un rapport avec le mouvement hippie. Mais on subissait quand même beaucoup l'influence une espèce d'envie de renouveau, d'autre chose, de ne pas être dans un système, etc., etc. Mais finalement, je ne savais absolument pas où j'allais. Et puis, cette visite du baron d'Aurore, ça a été absolument extraordinaire, parce que je me suis mis à lire ce message trouvé, et le premier, sans même me rendre compte qu'il s'agissait d'un livre prophétique. Je savais que les prophètes existaient dans l'Ancien Testament, etc., etc., mais chaque fois que je lisais ce message trouvé, qui est un ensemble de versets, hein, et je me disais, peut-être de manière très prétentieuse, mais enfin, cet homme a réussi ce que moi j'ai toujours raté. J'avais l'impression que c'est moi qui aurais dû écrire ce livre. Maintenant j'ai 70 ans, 73 ans, je serais encore toujours incapable de l'écrire. Mais disons qu'il y avait quelque chose en moi qui résonnait par rapport à ce livre. Mm-hmm. Alors, le personnage de Louis Catiau, je conseille à tout le monde de s'y intéresser. C'était un homme qui n'avait fait aucune étude officielle universitaire. Il était technicien automobile. Il a écrit un livre pour lequel je me suis mis à l'hébreu, par exemple. C'est un livre absolument magique. Et alors, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que Henriette Catiau, la femme de Louis Catiau, a affirmé à Toki voulait l'entendre que son mari n'avait jamais rien trouvé. Mais nous avons une lettre de Louis Catiau à Emmanuel de Vos, je crois, qui dit « Je me suis débarrassé de la curiosité de mon épouse Henriette en lui disant que je n'avais rien trouvé. Ce qui est la pure vérité, j'ai tout reçu.
» Emmanuel Dogvors vous initie à l'hébreu, à la kabbale, la compréhension symbolique de la Bible. Il vous pousse vers l'exégèse, l'interprétation de textes qui semblent de prime abord obscurs. Vous pratiquez pour vos recherches pendant des dizaines d'années intensivement le latin, le grec, ce qui vous amène à fonder Schola Nova, une école privée unique en son genre où le latin y est parlé couramment. Lors de sa création, vous précisez que ce qui paraît une innovation était pourtant normal à l'époque d'Erasme et qu'il ne s'agit que d'une méthode d'enseignement des langues classiques héritée de la Renaissance qui en prévoit l'usage actif. Est-ce que cette volonté de transmission en créant cette école s'inscrit dans la lignée des cours que le baron d'Hoogvorst a dispensé généreusement à vous et ses amis pendant plus de 20 ans ?
Oui, en tout cas de manière indirecte. Le baron d'Hoogvorst fulminait contre l'abêtissement généralisé et programmé. Et donc, j'ai immédiatement fait un enseignement à domicile, qui était un échec. Mon fils était seul dans cette école, alors que j'avais fait un tout de boîte dans la moitié du Brabant wallon. Et heureusement, à la fin de l'année, j'étais 4, et puis l'année suivante, 8, ça a été exponentiel. Maintenant, on a une centaine d'élèves. L'État, évidemment, nous a vus comme une véritable épine dans sa savate. Décret arrêté contre l'enseignement. On nous a assimilé à l'enseignement à domicile. Et donc, chaque parent est face à l'État. Et donc, il n'y a pas moyen de nous attraper avec un filet à papillon. Voilà.
Alors, vous recherchez des points communs entre les différents courants traditionnels. Vous étudiez les grandes religions, les contes. Et vous vous tournez vers l'alchimie. Étant donné que l'alchimie est une discipline très secrète, vouloir la définir en quelques mots est une tâche compliquée, pour ne pas dire impossible, mais nous allons quand même essayer pour les personnes qui nous écoutent et qui ignoreraient de quoi il s'agit. L'alchimie est-elle l'ancêtre médiéval de la chimie ? Est-elle l'art des métamorphoses que l'humain opère en se basant sur la nature et ses cycles ? Est-elle un travail en laboratoire, le grand œuvre pour obtenir la pierre philosophale qui transforme les métaux en or et par analogie transforme aussi l'humain ? On pense à l'élixir d'immortalité ou la panacée, la médecine universelle. Ou alors le laboratoire est-il plutôt intérieur, initiatique, nous permettant d'affronter le dragon symbolique qui se cache dans notre inconscient. Peut-être toutes ces définitions sont-elles fausses ou justes ou les deux. Peut-être existe-t-il autant d'alchimie que d'alchimistes. Quelle est votre vision à vous de l'alchimie ?
Eh bien, tout d'abord, quand on dit que l'alchimie est l'ancêtre de la chimie moderne, il y a quelque chose de vrai et en même temps, c'est tout à fait faux. C'est vrai en ce sens que la chimie moderne est née d'une interprétation totalement gauchie des textes anciens. Ça, c'est certain, et beaucoup de termes de l'alchimie des anciens ont été repris, comme par exemple les termes de mercure, de soufre, de sel. Vous savez que tous les métaux portent des noms de planètes, oui. Une crise, une intoxication en plomb, c'est une crise de saturnisme. Cuprum, le cuivre, ça vient de Chypre, c'est la l'île où était Vénus. L'étain, Stannum, c'est Jupiter, etc., etc. Donc, on a repris des termes de l'alchimie traditionnelle. Mais elle n'a rien à voir, en ce sens, déjà je vais reprendre une définition du baron de Houvreuse qui est très claire. La chimie moderne met en rapport et essaye de convoindre des corps qui ne sont pas faits pour aller ensemble. Tandis que l'alchimie traditionnelle unit deux corps qui sont destinés l'un à l'autre depuis toute éternité. Et donc il y a réellement une science objective, au sens moderne du terme, avec hypothèse de départ, à vérifier et vérification. En ce sens-là, l'essence profane et l'alchimie sont absolument identiques. Donc, les théories à la Jung et tout ça, malgré tout le respect que j'ai pour cet homme savant, qui ferait de l'alchimie uniquement une évolution intérieure et qu'il n'y aurait pas de véritable athanor, de véritable distillatoire, etc., etc., c'est faux. L'alchimie est une science opérative. Cette science est très, très secrète. C'est une science divine. Et là où elle se différencie des sciences profanes, c'est qu'une science profane, vous décidez de l'apprendre, vous faites des études de physique nucléaire, et si vous avez un bon cerveau et que vous êtes persévérant, vous aurez un diplôme de physicien nucléaire. L'alchimie, vous pouvez l'étudier pendant 50 ans. Si vous ne recevez pas le don de Dieu, si on ne vous la transmet pas, vous ne la posséderez jamais.
Alors, on entend souvent dire que l'alchimie est intimement liée aux textes mystiques et philosophiques hermétiques qui datent des premiers siècles de notre ère et qui sont attribués à Hermès Trismégiste, un personnage mythique de l'Antiquité grecque et égyptienne. Le corpus hermétique reste assez méconnu jusqu'au XVe siècle où, à la demande de Côme de Médicis, une première traduction est réalisée à Florence par Marsile Ficin, à qui l'on doit probablement les arcanes du tarot, synthétisé sur base de savoirs anciens. Émerge également à cette époque via la traduction arabe d'un document original grec, la table d'émeraude, également attribuée à Hermès Trismégiste et qui contient le fameux « ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et ce qui est en haut est comme ce qui était en bas ». La table d'émeraude est souvent considérée comme un pont entre alchimie et hermétisme. Selon vous, est-ce que c'est ce bouillonnement d'idées à la Renaissance qui aurait amené les alchimistes à voir en Hermès le fondateur de leur art ou est-ce que cette filiation existait déjà avant et a juste été mise en lumière durant cette période?
Elle existait déjà avant. Toute l'Antiquité était hermétique. Le dieu Thoth des Égyptiens n'a pas attendu l'Empire romain pour se manifester. Mais c'est vrai que pour nous, la grande source, c'est la bibliothèque d'Alexandrie, des écrits comme Zosime de Panopolis, le 3e siècle après Jésus-Christ, tout ça. On a quand même un édit de l'empereur Dioclétien qui fait rechercher dans tout l'Empire romain tous les traités d'alchimie. Pour quelle raison? Une raison bien pratique, comme l'étaient les Romains, c'était d'éviter que les Égyptiens, fabricant de l'or, ne parviennent à élever une armée contre les Romains. L'alchimie se retrouve en Chine, elle se retrouve partout. C'est une science dont on n'arrive pas à donner l'origine. Elle vient du premier homme. Et c'est vrai que historiquement, chez nous, c'est surtout à la Renaissance, ce fameux Marsile Ficin, le tarot de Marsile ou le tarot de Marseille, Ange Policien, Pic de la Mirandole, l'abbé Trithème surtout, après Corneille, Agrippa, Paracels et tous ces gens, il y a eu un renouveau, quelque chose d'extraordinaire. À tout point de vue, on a découvert qu'après le cataclysme social d'une religion d'esclaves, qui était le christianisme et qui avait assez bien abattu l'Antiquité, on redécouvrait que les anciens savaient tout, en réalité. Et là, maintenant, il y a manifestement un renouveau. Est-ce que cette renaissance va reprendre et va enfin réussir, ou bien est-ce qu'elle sera de nouveau étouffée? Comme disait Emmanuel de Horst, nous ne savons jamais si nous sommes un crépuscule ou une aurore.
En 2005 sort votre traduction des arcanes très secrets de l'allemand Michael Mayer, milieu du XVIe siècle, médecin et conseiller de l'empereur Rodolphe II. Ce livre est principalement une exploration des mythes grecs et égyptiens, vus comme les allégories des étapes du grand œuvre alchimique. Certains détracteurs affirment que l'interprétation alchimique et hermétique de textes anciens, de mythes, comme les arcanes très secrets donc, de sculptures, de monuments, alors là on pense plutôt à Fulcanelli, hein, son mystère des cathédrales, ce serait qu'une relecture tardive cherchant un symbolisme alchimique là où il n'y en avait pas. Ça vous inspire quoi?
Je ne crois pas du tout qu'on ait, après coup, donné une interprétation alchimique. Toute l'Antiquité commentait de cette manière-là. Porphyre lui-même écrit dans le Périagalmaton un commentaire sur le sens des statues. Et alors il dit quelque chose qui est probablement à l'adresse des chrétiens, il dit, ben, pour vous une statue ce n'est que du bois et de la pierre, comme pour les gens qui ne savent pas lire, un livre relié en parchemin c'est du papier, nous c'est ce qui est écrit dedans, et les statues, ben, nous les lisons, et telle statue signifie ça, etc., etc. Et en réalité, tous ces sages ont toujours été du même avis, hein. Oui. Ils sont unanimes.
Autre figure de l'alchimie qui vous passionne et sur laquelle vous vous penchez dans les années 2010, c'est l'auteur belge Gérard Dorne, qui a passé sa vie à traduire et à diffuser l'œuvre de Paracelse, le grand alchimiste suisse de la fin du XVe siècle. Cet intérêt culminera avec la traduction des 10 archidoxes de Paracelse, commentée par Gérard Dorne et publiée chez Beyat en 2018. Alors, j'adore parce que les 10 archidoxes se résument en réalité à 9, puisque la 10e est volontairement gardée secrète par Paracelse. Vous dites, Paracelse enseigne à mots couverts le mystère de la régénération spirituelle et corporelle de l'homme divin tombé ici-bas. Son style rude et embrouillé masque une sagesse sûre et une érudition à la finesse admirable. Plus le lecteur croit avoir compris, plus son attention doit croître pour éviter le piège. Est-ce que cette façon de procéder, qui se retrouve dans une majorité d'ouvrages alchimiques, c'est-à-dire une réalité qui parle d'une autre, ou qui est présentée sous des noms différents, ou plusieurs réalités regroupées sous le même nom, des allégories, des symboles, est-ce que ce langage rendu secret est utilisé pour faire de l'alchimie une connaissance élitiste ou pour ne révéler son art qu'aux chercheurs sincères et égarer les autres?
Mais c'est élitiste et c'est bien en cela que les chercheurs seuls, sincères, peuvent se trouver. Mais c'est un don de Dieu. Et c'est vrai que les alchimistes, on peut les taxer de menteurs. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la révélation. Révéler vient du latin révélare, recouvrir d'un voile. Donc l'ignorant ne peut s'en vouloir qu'à lui-même s'il a été pris par les images de la chose qui à la fois éloigne l'indigne et surtout l'avare qui veut absolument fabriquer de l'or et en même temps, ils disent la chose très clairement pour celui qui la sait. Voilà le gros problème de cette révélation.
Paracelse ajoute le sel aux deux principes traditionnels de l'alchimie médiévale, le mercure et le soufre, trouvant dans ces trois constituants une symbolique essentielle au corps et aux éléments. Le premier traité de médecine chimique du XVIe siècle du Danois Petrus Severinus sacre Paracelse comme disciple d'Hermès aux côtés d'Hippocrate, le fondateur de la médecine. Jusqu'à la Renaissance, la perception de l'alchimie était fort différente de la vision répandue aujourd'hui qui oppose science à art ou au sacré. Est-ce que cette vision actuelle, compartimentée, est l'héritage d'un rationalisme poussé à l'extrême?
Oui, certainement. La science et l'art sont absolument liés. La science médicale est un art, l'art de la musique est une science. D'ailleurs, la science musicale, l'art des muses, la musique, c'est une des définitions de l'alchimie. Et il y a les arts des hommes qui sont des techniques. La culture du vin, la peinture, la sculpture et tout ça. Donc la science et l'art ne peuvent pas être séparés.
Ouais. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, alors, c'est séparé?
Justement, par le rationalisme. Le rationalisme est une falsification pour faire croire qu'une synthèse était la somme de toutes les analyses. La connaissance analytique est une manière de connaître. L'analyse chimique d'un corps donne des choses, etc. Mais tout le monde sait qu'un bon médecin, il n'y a pas que les analyses de sang qui comptent. Il y a son intuition, il y a ses rapports avec le patient, etc. Le vin ne se compose pas de tanins, de sucre, d'alcool, d'eau et tout ça. Il se décompose dans tout ça. Mais la seule chose qui a disparu, c'est le vin, quand on l'a distillé. Moi qui suis pianiste, je connais le quatrième doigt de ma main gauche, comme aucun spécialiste chirurgien de la main ne la connaîtra. Il a sa connaissance à lui. Mais moi, je connais mes doigts comme si c'était des gens de ma famille. Je connais leur réaction. Lui ne sait pas, ça. C'est une autre manière de voir.
Dans l'amphithéâtre de la sagesse éternelle de Heinrich Kunrath, un disciple allemand de Paracelse, on peut observer la gravure d'un laboratoire alchimique. À gauche, on voit un alchimiste à genoux devant une série de livres sacrés, au-dessus desquels on distingue le mot hébreu Hokma, qui signifie sagesse, et qui correspond à la deuxième séphira dans l'arbre de vie de la Kabbale juive. C'est le principe divin. Au centre, on distingue une table accueillant des instruments de musique, portant l'inscription « La musique dissipe la tristesse quand l'Esprit de Dieu chante joyeusement et emplit de sainte joie les cœurs », ce qui montre l'importance de la musique dans le grand œuvre. C'est le principe psychique. Et à droite, on devine le laboratoire, le travail sur le mercure, le soufre, les métaux, c'est le principe de la matière. On sait que la connaissance et la transmission de la sagesse ont animé vos recherches et vos livres. On sait que vous avez été musicien. Alors j'ai envie de vous demander, si c'est pas trop indiscret, est-ce que le troisième principe de cette gravure, le principe matériel, a fait partie du grand œuvre de votre vie. Et si c'est pas le cas, pourquoi ?
Il est évident que si j'étais un opératif, je n'en parlerais pas. Si j'avais un laboratoire, donc de toute façon, si je vous dis que j'ai pas de laboratoire, vous allez croire que j'en ai quand même un. Et alors que c'est peut-être la vérité, je n'en ai peut-être aucun. Donc, un véritable opératif ne va pas aller se vanter qu'il a un laboratoire quelque part, même d'ailleurs de manière très pratique. Je connais plusieurs cas de gens qui ont essayé de s'emparer de la matière. J'ai rencontré un jour quelqu'un de Verviers, un pompier, un type qui était pompier. Il avait déjà la matière et à un moment, je lui ai dit, qu'est-ce que vous ferez si vous aviez... Oh, je m'en servirais comme moyen de pression. Et je sais que je suis retourné à ce moment-là en me disant, ben, si j'étais un sage, ça fait déjà une personne à laquelle je sais que je ne transmettrais pas. Donc, c'est certain que la connaissance expérimentale doit rester absolument secrète. Ça je crois qu'ils le disent tous dans leur traité. Mm-hmm. N'empêche qu'il y a plein de descriptions d'Athanor, de Four, mais vous avez aussi beaucoup de maîtres qui disent finalement il n'y a qu'un vase, ou bien deux. Mm-hmm. Tous les mots des alchimistes sont comme des dépipés. Alors il y en a qui disent, mais et si finalement il n'y avait rien ? Alors s'il n'y a rien, ce serait extraordinaire, ce serait la seule chimère qui aurait un degré d'immortalité extraordinaire. Pour parvenir à se transmettre d'âge en âge, en sachant que c'est un mensonge, enfin, mais imaginez un mensonge qui parviendrait à communiquer à ses descendants de maintenir ce mensonge et pour que ça réapparaisse tous les 2-3 000 ans et que chaque fois égal à lui-même. Mais alors ce mensonge aurait déjà par lui-même un accent d'immortalité qui serait inexplicable. Mmh. Rien que déjà ça, je crois, est susceptible, c'est d'ailleurs arrivé dans l'histoire, d'amener des rationalistes purs et durs à admettre qu'il doit y avoir un secret réel. Vous avez un auteur qui est Louis Figuier, qui est un auteur très prolique et qui a écrit L'alchimie et les alchimistes. Et Emmanuel de Vorst conseille toujours la lecture de cet ouvrage, parce que l'auteur ne croit pas à l'alchimie. Mais il faut lire son livre, parce qu'il cite au moins 40 cas où il reconnaît que là, il ne comprend pas comment on a pu rouler des orfèvres, des évêques, des tas de gens qui étaient là et que... Et il cherche encore toujours le truc de cette transmutation. Les transmutations métalliques sont dans l'histoire et un phénomène qui est difficile de nier.
Stéphane Feil, merci pour cette rencontre autour de ce sujet aussi passionnant qu'intrigant qu'est l'alchimie. Je vous laisse le mot de la fin, quelque chose que j'aurais oublié de vous demander, que vous voudriez dire, votre conclusion.
Oh ben ma conclusion, elle viendra surtout du début, parce que tout chez moi est venu du message retrouvé de Louis Catiot, qui est un livre prophétique. On ne sait plus maintenant ce que c'est qu'un prophète, mais n'oubliez pas qu'il y a eu Dante, il y a eu Virgile, il y a eu Homère, l'Empire chinois est basé sur le Tao Te Ching, l'hindouisme est basé sur la Bhagavad Gita, et le christianisme est basé sur les évangiles. Alors, nous faire croire maintenant qu'on est en pleine montée, qu'on a crevé le plafond, parce que nous sommes basés sur des dollars, des ordinateurs et des bombes, c'est un mensonge. À qui ferait-on croire une chose pareille ? Un peuple qui n'a pas de prophète, qui n'a pas de livre. Il y a 40 ans, plus de 40 ans que cette comédie dure. Voilà.
Merci.